Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Hier à aujourd'hui. La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Alors, Yves Daou, directeur de la section argent pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, dans l'histoire là, du vol de données chez Desjardins, ben le courtier a été retrouvé coupable.
Donc, ça se poursuit, la fameuse saga du vol des données confidentielles de Desjardins. Donc, hier, un des suspects, qui s'appelle Mathieu Jonca, il a été déclaré coupable d'avoir acheté des listes. Là, lui, il a payé souvent jusqu'à 100 000 $ pour acheter là, des listes sensibles là, de 150 000 à 200 000 personnes. Et donc, les données qu'il y avait sur qu'il obtenait, là, souvent, tu avais des données de ratio d'endettement, des données personnelles, etc. Et donc, lui, c'est un courtier hypothécaire. Évidemment, là, il a été sanctionné par... il y a un organisme là, actuellement là, qui surveille tous les courtiers hypothécaires qui sont comme des petits bandits à cravate. Là.
Oui.
Ça s'appelle l'organisme là, d'auto-réglementation du courtage immobilier. Or, ils ont rendu un jugement hier parce que eux autres, ils ont le droit de faire des audiences puis émettre des sanctions et des amendes à aux courtiers qui sont représentés par cet organisme-là. Or, hier, il y avait deux plaintes qui ont évalué justement le fait qu'ils aient acheté des listes. Puis ça, sans demander d'où il venait, pis etc., puis qui contenait des données personnelles. Mais ce qui est encore plus grave, la deuxième plainte, c'est qu'en plus d'être courtier hypothécaire, le jeune Mathieu Jonca, en plus, il avait un conflit d'intérêt parce que il avait une position comme actionnaire dans une compagnie de prêt privé. Donc, il achetait la liste, tu comprends-tu? Il regardait qui, tu comprends-tu, pouvait être potentiellement obtenir du courtage hypothécaire. Puis en plus, comme actionnaire d'une société de prêts privés, il faisait des prêts, souvent à 19 % à ceux qui avaient des mauvais ratios.
Mais ce gars-là, là, s'il était prêt à payer 100 000 $ pour obtenir ces données-là, c'est que ça valait cher, des données comme ça.
Ben, actuellement, on avait évalué là, à partir de... Tu sais, il y a eu des affidavits parce qu'il y a encore une enquête qui est menée par la police dans ce dossier-là. Évidemment, ces gens-là là, qui avaient volé les données vendaient ça autour de 1 $ par mois. Donc, ça veut dire que ça peut être rentable. Si, mettons, tu ajoutes un nom tu sais, à 1 $ puis que tu réussis après ça à faire un prêt de 50 000, 100 000 $ tu comprends-tu,
ben
à 19 %, c'est pas mal rentable. Donc, ça, c'est un autre qui a été reconnu coupable, mais je te rappellerai encore qu'il n'y a pas encore d'accusation criminelle contre personne. Hein. Là, c'est des sanctions qui peuvent aller peut-être jusqu'à 5 000, 10 000. Lui, il n'a pas eu encore sa sanction.
Ah non?
Non. Mais il y a d'autres courtiers dans ce dossier-là qui ont eu des petites amendes de 5 000 $ d'autres qui ont eu des petites sanctions de 30 000 $ mais ça n'a pas dépassé vraiment plus que ça.
Mais non, vrai, là... Bon, je pose des questions. Tu sais, à quoi ça donne d'avoir des lois si tu contreviens à la loi puis t'es pas vraiment puni, t'as une petite tape ses lois puis c'est tout.
Ben là, présentement, il y a quand même une enquête police là, qui existe pour ceux qui ont volé des données parce que ce qu'on a dévoilé là, récemment là, à partir des affidavits, le modus operandi de ces gens-là, il n'y a pas juste lui, il y en a d'autres, particulièrement le monsieur Boulanger, là, qui a Sébastien Boulanger d'Orval, là, qui était l'employé du mouvement Desjardins, qui était comme identifié comme le voleur de données, puis comment il fonctionnait à l'interne. Puis je te rappellerai que l'AMF aussi avait tapé ses doigts. Hein, de Desjardins qui disait qu'il avait manqué à leurs obligations légales lors de la fuite de ces données-là. Puis l'AMF avait été très dur à l'égard de Desjardins. Elle avait dit qu'elle n'avait pas vraiment ces pratiques de gestion saine et prudente là, pour s'assurer que un type d'accident arrive comme ça était pas à jour. Écoute, ils n'ont pas eu de pénalité Desjardins encore. Là.
C'est donc, incroyable.
Aux États-Unis, écoute, c'est des millions d'amendes qui sont versées par des entreprises qui. Un dossier à suivre, là, c'est.
Ça pose la question, là. Je reviens tout le temps là-dessus, mais tu sais, c'est bien beau d'avoir des lois et des règlements. Il faut que les contrevenants soient punis. Ça donne rien si tu punis pas. Puis là, je reviens au dossier sur les entreprises qui se foutent de la langue française. On voit que moins de 1% de ces contrevenants-là ont eu une amende.
C'est vraiment incroyable ce que le journal a dévoilé ce matin à partir des plaintes qui sont dévoilées par l'Office de la langue française. Là. Écoute, c'est un record presque là, de 4300 plaintes. Là. Et 80% de ces plaintes-là, ça touche le Grand Montréal. On s'entend que c'est à Montréal qui est un gros enjeu. Et sur ces 80% là, ou ces 4326 plaintes-là, le 7% de ça touche 10 grandes bannières au Québec. Puis évidemment, les plaintes, hein, ça touche la langue de service, ça touche l'affichage, puis évidemment, ça touche l'étiquetage des produits qui sont souvent pas nécessairement dans un bon français. Mais là, il y a eu seulement 1% écoute d'amende qui a été dévoilée. Donc, c'est un organisme qui est encore pas tout à fait les dents pour pouvoir sévir. Hein. On se comprend qu'il y a le nouveau projet de loi 96 là, qui va permettre la refonte de la loi 101, puis il va être plus dur. Mais juste à rappeler, Richard, qu'on avait dévoilé, là, je sais pas si tu te rappelles, les jeunes start-up, là, qu'on appelle les jeunes pousses, là, qui privilégient de plus en plus l'anglais. Là. Écoute, au Québec, là, sur la liste des 400 sociétés qui ont la plus forte croissance au Québec, là, il y a 61 entreprises québécoises là, qui portaient des noms en anglais. Écoute, tu sais, Uber, Ivestack, Breed Life, Lightspeed, au Québec, là, on est loin de nos entreprises comme Alimentation Couche-Tard, Cascade et le Cercle du Soleil.
Mais ça, est-ce que c'est des multinationales que, de toute façon, tu sais, c'est Urban Outfitters, c'est Urban Outfitters partout à travers le monde, là.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est cette idée de la langue française et du monde des affaires. Actuellement, tu as les multinationales qui eux autres, c'est quand t'es Tim Horton, là, puis c'est le propriétaire, c'est Restaurant Brand qui est aux États-Unis, là. Pas sûr qu'il suit tout le temps ce qui se passe au Québec. Mm. Mais ce qui serait plus important, c'est que les entreprises techno, puis les jeunes pousses qu'on a au Québec, là, que quand ils décident d'avoir un nom d'entreprise, que ces entreprises-là aient un nom français, tu comprends-tu? Et là, présentement, on est loin de ça. Donc, tu sais, les problèmes de plaintes qui touchent les multinationales qui respectent pas nécessairement le français, puis nous autres, nos propres entreprises qui se donnent des noms en anglais, on a du travail à faire.
Ben c'est ça, là, c'est de voir quand des entreprises québécoises, des jeunes entrepreneurs qui ouvrent un café puis qui donnent un nom en anglais, alors que c'est pas une bannière, là, c'est un commerce indépendant. Tu dis, Caroline, tu sais, vraiment, forcez-vous un peu, là, donnez un nom.
Le règlement actuel de la charte, là, c'est qu'une entreprise peut utiliser un nom qui n'est pas nécessairement en français à condition que celui-ci soit accompagné d'un générique. Mais tu sais, quand tu es rendu, tu rajoutes juste le mot marché à ben oui. Food, c'est pas un grand progrès. Là.
Non, donc, tout à fait.
Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis je rappellerai quand même que le Cirque du Soleil, se prononce très bien encore en français aux États-Unis.
Il y a eu un succès partout à l'international. Et en terminant aux élections, Justin Trudeau a promis mer et monde au Québec. Il s'est mis à genoux hein, devant le Québec. Puis il a fait plein de promesses. Si vous votez pour moi. Et là, Michel, c'est bon. Ce qu'il fait, c'est qu'il rappelle à M. Trudeau, regardez, voici la liste de vos promesses. À cette heure, il faut que les bottines suivent les babines.
Actuellement, Michel a fait un exercice et normalement, le gros lot qu'on gagnerait avec Justin Trudeau, c'est 17 milliards de dollars. Donc, les garderies, c'est 6 milliards. On rapporterait 5 milliards dans le transfert pour la santé parce que Trudeau a promis 21 milliards de dollars en transfert aux provinces. Ben, notre portion à nous autres, ça fait 5 milliards. Dans l'aide à l'habitation, qui est un enjeu, qui est l'immobilier, il y aurait 2,6 milliards qui reviendront au Québec. Puis après ça, tu as toutes sortes de petits gugus là, de crédits d'impôt pour les aînés de 65 ans et plus, des affaires pour les couples, pour les aidants naturels, les étudiants postsecondaires. C'est à peu près 3,6 milliards. Donc, au total, là, Michel est évalué à 17 milliards minimum de dollars, le gros lot qu'on gagne avec Justin Trudeau. La seule affaire que Michel a oublié de rappeler, c'est qu'on a aussi un gros lot, qui est celui qu'on va devoir assurer la dette et le déficit que Trudeau va nous léguer.
Mais oui.
Je te rappellerai quand même là, qu'actuellement, on a des déficits accumulés depuis mars 2020 avec Trudeau de 537 milliards. Puis notre dette là, fédérale là, avoisine le plus que 1,3 milliard, fait de 1 000 milliards de dollars. Donc, quand tu es rendu là, qu'on va être obligé d'avoir un coût de la dette de 32 362 par tête d'habitants. Mettons qu'on a aussi ce gros-là.
Ben oui, il n'y a rien de gratuit à travers le monde. Ce qu'a fait le Justin Trudeau, c'est qu'il a pris notre carte de crédit puis il est allé nous acheter des cadeaux, mais sur notre carte de crédit à nous autres. Fait qu'on va finir par payer de toute façon. Et j'attire l'attention des gens sur cette photo hallucinante du taxi volant électrique de Airbus, qui est un genre de gros drone, mais qui peut transporter 4 personnes totalement électriques. Écoute, c'est génial, ça.
Bien sûr, je veux juste te dire que même ici au Québec, il y a déjà des projets ici à Mirabel par nos compagnies d'aéronautique. Ça semble être le cas là, pour les prochaines années. Là, puis on est très bien placé en aéronautique au Québec. Là. Puis je te rappellerai quand même que Airbus est quand même le propriétaire de notre secteur aéronautique ici. Là. Fait que j'espère que sur ce taxi hélicoptère, on en développera une partie aussi au Québec.
Écoute, Yves, là, nos petits-enfants, là, ils vont se promener dans des autos autonomes électriques volantes. Ça va être ça, là.
Puis j'espère que quand ils sont sur ce taxi-là, ils parleront en français.
Non, ça, par exemple, tu rêves. Ça, non. Ça, la technologie ne va pas jusque-là. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut.
Salut, à demain. Au revoir.